Józef Ignacy Krawczewski, Oulana, Nouvelle Polésienne. Chapitre 1. S'il est un pays silencieux, s'il est un pays tranquille, c'est notre Polésie. Quand par un village il ne passe ni grand chemin postal, ni voie commerciale, on y perçoit que les bruits ordinaires d'un village, qui sont comme sa respiration, on n'entend rien d'inaccoutumé, on ne voit rien d'étranger. Toutes les casaques sont uniformément grises, tous les fichus uniformément blancs, et les pins uniformément verts, et les chaumières uniformément basses, tout irrégulièrement bâti. Et toujours la même fumée noire s'élève au-dessus des cheminées. Pourtant, de même qu'il n'existe pas sur un buisson deux feuilles complètement semblables, vous ne trouverez pas non plus en Polésie deux villages en tout point pareils. Ici, l'église est plus haute et entourée de sombres galeries. Là, le bois est plus épais. Ailleurs, les chaumières sont plus nombreuses. Toutes ces bourgades se ressemblent autant que des sœurs entre elles. Mais pas plus qu'il y a deux visages humains, il n'y a pas non plus deux bourgades qui soient absolument identiques. Regardez vers le lac qui, calme et paisible, s'étend au pied de la colline occupée par le château seigneurial. Voici l'un des plus beaux villages de la Polésie volignonienne, au milieu de laquelle il est situé. En descendant du coteau que contourne la route, on a devant soi, disséminé sur la rive du lac, le village au-delà duquel on aperçoit les murailles blanchissantes du château, tandis qu'on laisse derrière soi une vieille église à trois coupoles qui, du haut du monticule qu'elle couronne, domine les environs. La route court en pente rapide le long du lac jusqu'au cabaret où commence le village. Tout autour, dans le lointain, la même forêt de pins avec ses abatis, ses fourrés et ses arbres plus ou moins clairsemés qui bordent chaque horizon en Polésie. Du sable, une boue verdoyante à travers laquelle glisse une petite rivière couverte de joncs sous un ciel nuageux. Dans le village serpente une rue boueuse où vient s'embrancher d'endroit en endroit un petit sentier tapissé de chevêtres, de copeaux et de bûchettes qui mène d'une cabane de paysans à une grange. Les rues sont bordées de chaumières, d'étables à porcs, de granges, les unes en bon état, les autres effondrées, ployantes aux angles déjetés, aux poutres inclinées, à la toiture affaissée ou à peine bousillée. Et dans les intervalles, des morceaux de treillage en chêne et de vieilles haies en pieux et menues branches entrelacées. Ici et là, de derrière la clôture, un pâle sorbier se penche sur la rue, un vieux poirier apparaît, où la longue rue d'un puits sec se balance au-dessus de la tête du passant. Devant les cabanes fort basses, recouvertes inégalement de lattes déjà noircies par la fumée, et à peine fixée au chevron, on voit seulement, sous la gouttière prolongée au dehors, un banc incommode, placé contre le mur, et qui souvent n'est qu'un tronc d'arbre dépouillé d'écorce. Du côté de la cour, des portes basses, paraissant plus basses encore à cause de l'élévation du seuil qui empêche les eaux d'une mare voisine de pénétrer dans l'habitation, et de petites fenêtres à vitres particulièrement rondes, de couleur verte, semblables à des fonds de bouteille. Parfois d'informes petits carreaux, plus blancs d'un vert mince et commun, achetés avec des fenêtres toutes fausses faites à quelques marchés, remplacent les carreaux ronds des petites fenêtres ordinaires. Sur un toit élevé et enfumé, se dresse une cheminée de bois en forme de trompe ou bien de poteau carré. En hiver et souvent même dans les autres saisons de l'année, la cheminée n'ouvre pas une issue suffisante à la fumée amassée sous le toit de la chaumière. Alors cette fumée s'échappe par toutes les fentes, les fenêtres, les portes, les parois et la toiture, si bien qu'on dirait que la cabane est intérieurement un feu et que la flamme va jaillir d'un moment à l'autre. C'est dans une pareille atmosphère d'exhalaison épaisse et résineuse, de bois, de pin, de vapeur et de fumée, que se passe la vie entière d'un paysan de la Polésie. L'intérieur de la chaumière dénote la même pauvreté ou la même négligence. Le vestibule, habituellement bourbeux, dans lequel les porcs se promènent de long en large, est encombré de râteaux, de bois résineux apprêtés pour l'hiver, de bois d'aulne, d'échelles, de fragments de fourches et de herses brisées. Du vestibule, on pénètre dans l'unique pièce de cette habitation qui, avec des bancs tout autour et un poêle au milieu, est petite, sombre, enfumée, sans plancher. Où il y a une table, puis une huche, cette mère qui donne le pain, dans le coin de la chambre, sur un banc, sous une image de la Vierge, quelquefois encore un berceau et un métier de tisserand. Oh, vous n'y trouverez nul superflu, rien au-delà des strictes nécessités de la vie, aucun souvenir, aucune marque d'attachement à un objet. Le peuple, qui est encore dans un état à moitié sauvage, ne pense qu'à satisfaire ses premiers besoins physiques. C'est à peine si, sur les fossés, de petits moulins enfantins et devant les chaumières des jardinets dans lesquels le souci se clore, la fleur fleurit et le pavot brille, témoignent que là même on permet aux jeunes gars de s'amuser quelquefois. Bientôt l'enfant, qu'on a d'abord occupé à paître les troupeaux et à surveiller ses frères plus jeunes, commence une vie de labeur. Et la fille, qui a pris un mari, ne pense plus à cultiver des fleurs ni à se parer de fleurs. Oh, qu'on est plus léger, mieux à l'aise au bord du lac que dans cette chaumière triste et sale. Sur la colline trône la maison seigneuriale, entourée d'une guirlande de peupliers qui se mirent dans l'eau et flanquée de greniers, de granges, de meules, de blé et de foin. On y distingue entre les arbres un pigeonnier, la barre d'un puits et, sur le versant de la colline, un moulin à vent au repos, car les forêts lui dérobent le vent. Aussi chôme-t-il la plus grande partie de l'année. Plus loin, sur l'autre rive du lac, est l'église, noire, petite, vieille, avec sa croix et son clocher. Église silencieuse, qui se ranime seulement lorsque les chants résonnent dans ses murs, que ses cloches se mettent en branle, et qu'elle est comble de peuple. D'un dimanche à l'autre, morne, muette, elle regarde le village comme une vieille femme regarde les enfants qui s'amusent à remuer du sable. Plus loin, au milieu d'un champ jaunâtre et d'enclos de paysans, est le cimetière du village, tout mamelonné de tombeaux, que surmontent des croix noires, doubles et triples, plus petites ou plus grandes, depuis celles qui sont si petites qu'on les foule aux pieds, jusqu'à celles qui sont aussi hautes que les sapins, les unes simples, les autres peintes, avec ou sans Jésus étendu sur la croix. Au-dessus de tous brille la croix de Sainte-Semaine, l'éleveur d'abeilles, couverte d'un petit toit vert. Oui, son fils la lui a posée. Et il en avait les moyens, car il lui avait été laissé en héritage sans ruche d'abeilles. Il reste maintenant à voir comment vivent les hommes qui habitent ces chaumières, qui prient Dieu dans cette église, et sont enterrés dans ce cimetière. Pullman eut une triste existence, mais que l'habitude le rend légère, pourvu que Dieu donne une bonne récolte, et pourvu que la surabondance de la pêche aux poissons ne leur fasse pas craindre la faim. Parce qu'il croit au proverbe, quand le poisson se laisse pêcher, le blé ne veut pas pousser. Ce dicton s'explique facilement. Les poissons se pêchent mieux quand les eaux sont grandes. Et comme les terrains de la Polésie sont bas, les inondations les menacent de la disette. Ah, nous avons oublié un des plus importants bâtiments du village, qu'il nous est impossible de mettre dans notre description. Nous avons parlé du château qui représente pour le paysan l'autorité et les supériorités sociales, de l'église, le trésor des espérances de la vie future. Reste le cabaret, lieu de la réjouissance journalière. Il faut que le villageois alimente de sa propre substance ses trois foyers établis autour de lui, qu'il travaille en échange de la protection que lui octroie le Seigneur, des espérances dont le prêtre le repaît, et des satisfactions que lui procure le cabaretier. Tous les trois vivent de lui, mais lui ne pourrait pas vivre sans eux. Montrez-moi un village sans château, sans église et sans cabaret. Cela ne saurait être qu'un pauvre orphelin ayant des tuteurs quelque part dans le voisinage. Les paysans se passeront encore facilement de château et tant bien que mal d'église. Car il y a des localités où ils ont une lieue à faire pour prier Dieu et enterrer leurs morts. Mais où trouve-t-on un village sans cabaret? Ce serait un être sans cœur. Le cabaret, en effet, c'est le lieu des rendez-vous, des délibérations et des réjouissances. C'est là que tout se noue et se dénoue. C'est là qu'on se confie ses peines, qu'on se querelle et qu'on se bat, qu'on se dispute, qu'on se réconcilie et qu'on s'aime. Le cabaret, c'est le cœur d'un village, comme l'église en est la tête et le château l'estomac. Les mains et les pieds de ce corps, ce sont les chaumières des paysans. Cette longue bâtisse branlante que le juif habite pêle-mêle avec sa famille, son bétail, ses chèvres, ses oies, ses poules, dont une simple cloison le sépare, à moins qu'il n'y ait qu'une seule pièce qui serve à la fois aux hommes et aux bêtes, c'est l'endroit où se rencontrent principalement les villageois, où ils discutent, et c'est le rôle actuel. Sur son toit s'élève une branche cheminée aristocratique. Ses fenêtres ressemblent à celles des chaumières, sauf qu'elles sont beaucoup plus grandes. Les fenêtres ont des contrevents et les portes quelquefois un loquet en fer, au lieu du primitif verrou en bois. La première chambre contient, outre le lit juif, qui ne manque dans aucune pièce, un comptoir, un buffet orné de la peinture de litres et de guirlandes de craquelin, un four avec une niche de côté et une large cheminée, où pour un Polésien, il doit y avoir du feu même en été. Un seau d'eau, boisson gratuite pour les voyageurs qui n'ont pas un gros, et quelques marmots, de la boue et beaucoup de mauvaises odeurs. Dans l'autre chambre, vous trouverez peut-être une chèvre tuée, un mouton ou un veau, un tas de pommes de terre dans un coin, les 10 commandements de Dieu dans un autre, de nouveau plusieurs lits couverts d'énormes édredons, un banc, une étable. La population y est encore plus compacte, les exhalaisons sont encore plus étranges, si c'est possible. Voilà le cabaret de la Polésie, le cœur du village. Vous verrez des vieillards qui s'y traînent péniblement pour noyer le restant de leur esprit et de leur mémoire. Des femmes toutes déguenillées qui viennent échanger de l'orge mondé, des œufs, des poules, souvent les derniers échevaux de leur quenouille, contre un litre d'eau de vie. Des jeunes filles qui s'y prennent à 10 fois pour vider un petit verre. Des garçons transis de froid qui se recommandent à la cabaretière pour quelques gouttes de ce nectar magique. Oh, combien ne se déroule-t-il point de scènes qu'une moitié du monde n'aperçoit pas, parce qu'elles se passent trop bas, et que l'autre moitié du monde ne croit pas digne d'observation et d'étude. De combien de conversations curieuses, de combien de querelles et de nouvelles ces murs ne sont-ils pas témoins? Et personne ne regarde ces gens-là, et personne ne les écoute, et pourtant ce sont aussi des hommes. C'est peut-être en eux que se décèle le plus franchement la nature humaine, que rien n'a faussé, l'homme dans sa nudité, tel qu'il est sorti des mains de Dieu, à cela près que les seigneurs lui ont appris un peu de dissimulation, et les prêtres un peu de religion. Mais il est temps de sortir du cabaret et de jeter un coup d'œil sur le château. Le seigneur de ce village, seul et célibataire, est récemment revenu de la ville. Jeune encore, c'est une tête chaude et un cœur bouillant. Tout le mal que jamais livre peut faire en tournant des têtes, il a ressenti. Tadej Rozovzinski n'avait pas, du vivant de ses parents, terminé ses classes. Il était d'une famille de bonne noblesse. Devenu orphelin, il acheva ses études à son université, tout seul, libre en ville. Par bonheur ou par malheur pour lui, il tomba dans la société de jeunes gens, non pas entièrement corrompus, mais seulement un peu fous. Il fut redevable à cette fréquentation et à ses livres favoris d'une tournure d'esprit poétique et d'une sorte de conviction que pour être un grand homme, il suffisait presque d'être un grand original. Aussi serait-il impossible de décrire et de raconter toutes ces bizarreries à la ville et tout ce qu'il s'y permettait. Ne reconnaissant comme obligatoire aucune des règles reçues dans la société, n'ayant aucun souci des hommes et de l'opinion publique, il ne faisait que ce bon lui semblait. Agissant d'une manière souvent généreuse, et plus souvent encore irréfléchie, bon, c'était un jeune homme sans jugement, qui ne sentait pas le besoin du frein, et qui se précipitait à l'encontre de tout, au gré de ses passions et de ses sentiments, luttant contre les obstacles ambiants, sans se laisser abattre ni par les contrariétés, ni par le ridicule, ni par aucune chose au monde. Tout l'irritait, mais rien ne l'arrêtait. Enfin, par suite d'un événement dont il sortit vain honteusement abusé, car on voulait profiter de sa simplicité, de sa noblesse de caractère, de son aveuglement volontaire, et il n'avait été qu'accidentellement préservé d'un malheur. Tadej, dégoûté du monde, s'est pris de la pensée d'une vie solitaire, d'une vie d'ermite. Il partit pour son village et son lac et conçut la résolution de ne faire que lire et rêver et de passer ainsi toute son existence. Il était facile de prévoir qu'il suffirait d'un moment pour changer une résolution aussi subite, aussi passionnée, aussi téméraire, et qui ne résisterait pas au poids d'une seule année. Mais il lui semblait qu'il persisterait à mener ce genre de vie et qu'il l'épouserait à jamais. Il est étrange que l'homme se flatte chaque fois d'éterniser la durée de ce qu'il fait de contraire à sa nature. Ne pouvant répondre du lendemain, il s'engage jusqu'à l'article de la mort et, 100 fois trompé, il recommence inconsidérément la 101e expérience par d'imprudents engagements pour ficelle, puis sur le bureau d'un encrier desséché à côté d'une montre de poche avec un cachet armorié, d'une petite bourse verte et d'une tabatière faite d'une conque. Du bois d'aune était à moitié consumé dans la cheminée, Une provision de bûche remplissait un coffre à bois. Sur une tablette, une chandelle, des allumettes et des morceaux de papier, de vieilles lettres effilées pour allumer la pipe. Plus loin, une armoire à habits, un lit avec une image de la Vierge de Chenstokova, et à la tête du lit, un cierge béni, presque usé déjà par celui qui avait dormi. Tout semble abandonné d'hier, délaissé d'hier. On peut à chaque instant espérer entendre parler les défunts et les voir entrer. Ils vivent encore dans le culte que leur fils leur rend. Le premier venu n'aurait pu résister dans la solitude à l'angoisse du spectacle de ce souvenir pénétrant des morts, ni vivre avec lui, ni le contempler sans terreur ou sans une insurmontable souffrance. Thaddée en avait la force. Il lui était doux, le soir, de peupler des ombres de ses parents, ses chambres vides où sifflotaient seulement les canaris de sa mère et où la vieille pendule semblait murmurer sans cesse « Repos éternel ». Il ne changea rien de place, ne permit de rien bouger. Il respecta même les charbons de la cheminée de son père et la cendre que celui-ci avait fait tomber de sa dernière pipe, et les échantillons de blé éparpillés sur la fenêtre, qui n'étaient permis qu'aux souris de grignoter. Cette vie retirée, cénobitique de M. Thaddée, durait déjà depuis un mois ou deux. Et c'était réellement beaucoup, c'était énorme. Les livres, la chasse, la promenade, les rêveries occupaient tout son temps. Il se sentait plus tranquille, sinon plus heureux. Et quoiqu'il bâillât quelquefois, qu'il rêvât chaque jour au bruit de la ville, au fracas des voitures, au son de la musique et aux rumeurs de la foule, pourtant, lorsqu'il s'éveillait au murmure du lac, au tintement des cloches, il se sentait mieux où il était, et il éprouvait, pour ainsi dire, la douce émotion d'une vengeance satisfaite en disant « Oh, je me passerai du monde et des hommes !» Un seul domestique, assez maladroit mais silencieux, car M. Thaddée n'aimait pas causer avec ses gens, composait toute sa maison. Le régisseur, le cuisinier, la femme de charge se montraient rarement à lui. Il leur donnait des ordres, vérifiait s'ils les avaient exécutés, mais ne leur adressait jamais plus de paroles qu'il n'était nécessaire. Jacques, le domestique, transmettait souvent les ordres de son maître et c'était un important personnage au château, parce que lui seul avait ses entrées chez M. Thaddée. Il était comme son premier ministre. Il y avait, dans la chambre de M. Thaddée, un lit étroit et dur, une table avec des livres. À la muraille pendaient ses fusils et ses gibecières. Un chien se chauffait devant la cheminée, dont le feu ne s'éteignait jamais. Près de la fenêtre se trouvait une armoire toujours fermée. C'était là tout l'ameublement. Son costume se composait de ses vêtements de fantaisie qui résistent à la mode et n'obéissent pas à ses caprices. Un veston gris, un xalwarka noir, une redingote fourrée de renard, un bonnet de peau de mouton, un chapeau de paille et de solides gants d'élan. Lui, naguère le premier des élégants de la ville, il avait à la campagne adopté cette manière commune de s'habiller qui ne le distinguait pas d'autrui et le dispensait de songer à la plus sotte de toutes les règles de la société, à la mode inventée par les oisifs. Tout à fait solitaire, ayant répudié le monde, puisqu'il ne se rendait même pas à la ville la plus voisine, il ne voulait que vivre sans faire attention à rien ni à personne. Et il disposait de sa journée entière selon sa volonté et son caprice. Il n'avait point d'affaires, rien ne lui faisait obstacle dans sa manière de vivre. Il jouissait d'une liberté qu'il estimait préférable à l'existence mondaine, à laquelle il se promettait mentalement de ne plus jamais, mais jamais revenir. Ne le connais-je pas assez les hommes, se disait-il. Devrais-je payer de nouvelles expériences par de nouvelles douleurs? Et pourquoi? N'est-ce pas assez de ce que j'ai? Combien d'hommes n'ont pas cette liberté, un coin pareil à celui-ci, une existence telle que la mienne et autant d'indépendance que moi? Que de gens pourraient encore envier mon sort? À quoi bon le monde? Puisque Jacques, mon chien, mon fusil et quelques livres favoris me suffisent. Puisque j'ai à moi forêt, eau, terre et une part du ciel, que je ne demande rien à personne, que je n'ai pas d'importance et suis si bien et si paisible dans mon isolement. Je puis donc attacher au rivage la barque de mon existence, sans chercher la pleine mer et les tempêtes. Pourtant, tout en raisonnant ainsi, Thaddée soupirait comme s'il regrettait que le passé ne lui eût pas réussi, comme s'il demandait davantage encore à la vie, comme s'il nourrissait des espérances qu'il ne voulait pas s'avouer à lui-même. Ses regrets et ses retours sur le passé peignaient assez l'état de son âme, non encore apaisée et inquiète, attendant le prix des douleurs souffertes. Et cette compensation qu'après chaque malheur, l'homme a coutume de demander à la destinée. Nous avons en nous le pressentiment du bonheur. Le cœur blessé sent qu'il lui est dû quelque chose pour ses blessures. Mais il cherche aveuglément sa récompense sur le champ de bataille. Or, dans la bataille, on ne trouve avec la lutte que la mort et la destruction. Chapitre 2. M. Thaddée, qui avait chassé le jour précédent, s'était réveillé de très bonne heure, mais de 9 heures du soir à 3 heures du matin, il avait assez reposé. Le jour commençait à poindre et par la fenêtre, on entendait le ramage des petits oiseaux autour de la maison, parmi les groseilles rouges et les moissonniers. La barre du puits, dont le bruit avait éveillé Thaddée, grinçait encore. Il se jeta à bas du lit, se frotta les yeux, et après avoir attisé le feu de la cheminée, à moitié éteint, il s'assit pour prendre le thé que Jacques avait déjà préparé et se disposa à sortir de nouveau pour son fusil, tout seul comme toujours. Rêveur, pensif, il se promenait dans sa chambre. Car chaque matin, avant de s'être bien pénétré de sa nouvelle manière de vivre, il se levait ainsi de son sommeil, fraîchement enivré des rêves du passé qu'il avait ballotté la nuit entière et qu'il était forcé ensuite d'éloigner comme une mouche importune. Oh, un passé interrompu, inachevé, pèse sur le cœur aussi lourdement qu'une pierre. Dès qu'il eut pris son thé, il revêtit vite son costume de chasse et sans attendre le lever du soleil et la chaleur, il s'élança vers le lac et prit le sentier de la forêt. C'était une admirable et belle matinée de printemps, belle comme un enfant aux fraîches couleurs qui en riant s'éveille dans son berceau, parsemée d'une rose perlée, odorante, mélancolique et si calme. Au-dessus du lac planait un brouillard léger qui se balançait au gré du vent. Des cassis en fleurs embaumaient l'air. Les rossignols chantaient et au levant, le ciel s'empourprait à la place où dans un instant, le soleil devait paraître. Thaddée suivait le sentier sablonneux qui, par les champs, conduisait à la forêt. Il laissait derrière lui le château, le lac, le village. En face de lui se déployait une sombre forêt de pins au bruissement majestueux. Thaddée s'enfonça dans ses rêveries, le front baissé, et marcha ainsi assez longtemps. Tout à coup, le chien, son fidèle compagnon, aboya. Et quelqu'un poussa un cri d'effroi. Thaddée releva la tête et aperçut une simple femme de son village, pieds nus, à la casaque grise, un fichu blanc sur la tête, qui allait sans doute dans la forêt pour ramasser les champignons printaniers, car elle avait une corbeille suspendue à l'épaule par une ceinture rouge. Il la regarda et arrêta involontairement son regard sur elle, parce que son visage, sa taille, et même ses mouvements pleins de naturel et aussi de prestesse, avaient quelque chose de si gracieux qu'il ne pouvait concevoir qu'une femme si belle ne fût qu'une simple villageoise. Il l'examina, et en l'examinant, la pensée lui vint que ce pourrait bien être une personne travestie. Comment y aurait-il, dans un village de la Polésie, un teint si délicat, des lèvres si fraîches, des cheveux si lisses, si bien peignés, et sous un fichu blanc, une tournure si charmante? Il jeta un coup d'œil sur les tresses de sa chevelure pour savoir si elle était mariée, et ne les aperçut point. Elle avait donc un mari. Thaddée s'approcha d'elle et la considéra opiniâtrement. Elle rougissait et s'avançait toujours, les mains dans les poches de sa casaque, la tête baissée, comme si elle avait honte d'être si belle. Il n'y avait pas sur son visage trace du sourire qu'on remarque ordinairement chez les femmes du peuple quand elles sont contentes qu'on les regarde et qu'on les complimente. Elle baissait la tête, inquiète et toute confuse. « Et d'où es-tu ? » demanda Thaddée. « Du village ?»« Des bords du lac ?» fit-il en patois polésien. « Des bords du lac ?» répondit-elle en polonais. « Oh, tu sais le polonais ?»« Et quoi ?» locution employée en polésie à place du simple « oui ».« Je le sais. »« Et où l'as-tu appris ?» Au château? Et dans quel château as-tu été?
Ici, chez votre seigneurie.
Et quel est ton nom?
Oulana.
Et celui de ton mari?
Oxen Oxar.
Oulana disait tout cela à voix basse et inintelligiblement, en jetant les yeux autour d'elle et en précipitant de plus en plus ses pas. Thaddée était trop surpris de cette divine figure d'ange sous un vêtement si misérable, pour se laisser dépasser par elle. Il regarda ses pieds, ils étaient petits mais noirs de boue. Elle retira sa main de sa poche pour arranger ses cheveux. Et sa main était petite, rose et inconcevable chez une femme du peuple. Le visage se rencontre quelquefois, mais la main qui semble n'être qu'un ornement chez ceux qui ne font rien, et ne l'ont belle, dira-t-on, que pour en tirer vanité. La main était une merveille. Déjà, Thaddée était à bout de questions. Son cœur, elle, battait, son visage brûlait. Elle fuyait si vite qu'enfin il lui restait en arrière, mais il la suivait de loin. « Où vas-tu ? »
« Dans la forêt pour ramasser des champignons. »
Thaddée prit un sentier dans une autre direction et s'en alla tout pensif. Cette apparition d'une femme si belle évoqua mille pensées, mille douloureux souvenirs. « Oh !» se disait-il en contemplant dans le lointain la casaque blanche d'Oulama, « c'est une belle fleur négligée au milieu des mauvaises herbes, une fleur qui serait plus belle que beaucoup de nos fleurs d'orangerie, si elle avait seulement poussé dans la plate-bande du jardin et non dans la forêt. » Et si elle eût été aimée non pas d'Oxen Oxar, mais de personnes beaucoup meilleures et qui savent aimer, combien elle pourrait rendre quelqu'un heureux? Car ses yeux ne mentent pas. Elle a une âme, mais cette âme dort et dormira sa vie entière. Oh, on serait heureux avec elle, répéta-t-il. Et on ne serait pas seul, ajouta-t-il aussitôt avec un sourire moqueur. Non, pas seul. Deux ensemble, et peut-être 5, 10 à la longue. Ces dernières paroles, si bizarres, ramenèrent sur ses lèvres les souvenirs d'un ancien amour, dans les faces auxquelles il n'était pas seul.
Mais il y avait, à ce qu'il paraît, deux heureux à la fois. Et ce souvenir le tourmentait encore. Thaddée baissa la tête tristement et s'enfonça dans la forêt avec ses pensées. Chapitre 3. Quelques jours après, pendant que tous étaient au champ, Thaddée, contre sa coutume, descendait la rue qui, par le village, mène à la chaumière d'un potier. Pourquoi, il ne le savait pas, et quand il se scrutait et sentait à quel mobile il le paissait alors, il riait de lui-même. Il marchait comme une bête tirée par la corde. En un seul individu, combien souvent n'y a-t-il pas deux hommes distincts? L'être froid, qui se gouverne uniquement par la raison et par la tête, ne sent jamais ce dédoublement de l'âme qui cause à d'autres une souffrance insupportable. Ces deux hommes qui coexistent de la sorte, souvent l'un rit des larmes de l'autre, persifle ses actes, lui fait craindre l'avenir, et au milieu de voluptés suprêmes, indique les nuages qui se forment sur le ciel, détruit en analysant la jouissance que son incrédulité met à nu. C'est la raison froide qui, juchée très haut, comme un veilleur, regarde à ses pieds, prévient et raille. L'homme lui obéit très rarement, et la raison se venge sur lui par des sarcasmes d'abord et par des reproches ensuite. Moins on l'écoute et plus ses attaques sont vives, ses morsures cruelles, ses moqueries acerbes. C'est une vraie torture. Le cœur s'élance vers le monde, l'homme tend les bras, il se sent déjà heureux, il saisit son bonheur. Et cette voix terrible de la Cassandre qu'il porte dans son sein lui crie continuellement aux oreilles: Tu verras demain ce que c'est que ton bonheur. Ou, mais regarde de près ce que tu as obtenu. Et alors l'homme regarde, commence à ne pas croire et cesse d'être heureux. Cette voix de l'âme contrarie toujours la volonté de l'homme et s'élève toujours menaçante en travers de sa route. Hélas, elle est toujours un prophète de malheur et un prophète véridique. Et l'homme incline la tête, ferme les yeux, s'abandonne à la passion et ne rouvre les paupières que réveillé par le rire satanique de la raison triomphante. La raison, de quelque nom que vous la baptisiez, est insupportable, obstinée, implacable. Sa voix bourdonne sans cesse à vos oreilles et ne vous laisse pas de repos. Il est impossible de l'assourdir. Elle vous suit partout, comme votre conscience. Elle est une partie intégrante de vous-même, une partie distincte, indépendante, qui vous crache à la figure alors même où, sans se salir, elle se vautre avec vous dans la fange, qui se moque de vous, volupté, persifle vos vains projets et vous montre à terre les débris de vos plans orgueilleux. Est-il aucun de vous qui ne connaisse ce compagnon inséparable, ce serpent qui, après s'être enroulé autour de vous, aspire tout ce que votre poitrine a de tranquillité et vous inflige, par anticipation, les angoisses d'un sombre avenir? Ne laissant même pas à la coupe de l'existence ce peu de miel qui, sur les bords, dédommage de l'amertume du fond. Est-il aucun de vous qui ne connaisse cet importun intolérable, devant lequel on ne peut trouver de refuge même dans les profondeurs de son propre cœur? Il n'est possible ni de se dérober devant lui, ni de se réconcilier à force de flatterie. Mais cet insupportable contradicteur vous talonne d'autant plus vivement que vous vous êtes davantage efforcé de l'amadouer. C'est là l'ennemi avec lequel Thaddée était précisément en train de lutter. Deux hommes étaient aux prises en lui, l'un froid, raisonnable, ironique, l'autre imprévoyant, passionné et enfantin. Le premier se moquait impitoyablement du second, le tourmentait, l'humiliait. Et l'autre semblait ne rien entendre, ne rien sentir, ni ne rien comprendre. Et quoi, tu t'es enamouré de la femme d'un potier, d'une simple villageoise, disait la voix ironique. Horreur, scandale, honte. L'oseras-tu, parviendras-tu, le risqueras-tu, en sais-tu les conséquences? À tout cela, Thaddée ne répondait rien. Il avançait, écoutait et se taisait. En réalité, il se passait en lui quelque chose d'incompréhensible. Il s'était produit chez lui je ne sais quel changement. La nuit, il rêvait non aux mille bruits de la ville, ni au balancement des sapins, ni à la senteur du bouleau, mais aux beaux yeux de la femme du potier. Et ses yeux le considéraient avec un millier de promesses et une indéfinissable et voluptueuse langueur. Ah, et celle qu'il avait trahie. Toujours encore cette créature, toujours la même. Il la voyait et en même temps il en apercevait une autre. Deux femmes en une seule. Et à ce réveil, en gagnant la campagne et la forêt, il se retournait avec agitation et cherchait des yeux si de nouveau il ne découvrirait pas quelque part Oulana. Cédant à son violent désir de contempler les yeux de cette femme, il se dirigea vers la chaumière d'Oulana. Dans le village, tout était silencieux. Des enfants jouaient seulement dans la rue et une vieille femme portait un seau d'eau en toussant et se reposait à tout moment. Deux petites fillettes, simplement en chemise, chantaient et dansaient en rond dans la boue devant les cabanes en se tenant par la main. Thaddée s'engagea dans le village. À proximité de la chaumière, il s'arrêta et eut honte de lui-même. « Insensé !» lui cria ce second moi, qui ne fait jamais rien et ne cesse de rire des actions humaines. « Mais pourquoi vas-tu là? Et à quoi penses-tu ?» Et l'autre moi, s'excusant mensongèrement d'une entreprise qu'il ne voulait pas abandonner, répondait avec humilité. « Me sois donc la paix. Elle n'est certainement pas dans sa chaumière, elle doit être au champ. » À quoi la voix ironique et infatigable répliqua en lui chuchotant à l'oreille. « Si elle est au logis et que tu entres chez elle, chacun le saura. Son mari la battra, même s'il n'y a pas de quoi. Et t'en trouveras-tu mieux, plus libre, plus gai? Cela t'aidera-t-il en quoi que ce soit? J'entrerai pour boire un peu d'eau, » murmura tout bas l'autre moi. Quel mal vraiment y a-t-il à cela? Oh, j'ai même très soif, car il fait bien chaud. Il était déjà debout près de la porte basse de la chaumière. Et il en fit jouer le loquet et entra. La voix ironique éclata de rire d'un ton de chouette et s'écria « Oh, charmant, délicieux, parfait! Dépêche-toi de courir à une nouvelle déception, à de nouvelles souffrances. » Oulana était au logis. Elle se tenait dans le vestibule occupé de la volaille. En apercevant le châtelain, elle rougit, pâlit et resta immobile de surprise et d'effroi. Il faut savoir que Thaddée ne se promenait jamais dans le village et n'entrait jamais dans les chaumières. La pauvre femme comprit, frémit et attendit en silence ce qu'il allait lui dire. « Donnez-moi de l'eau, Oulana, » dit tout bas Thaddée en franchissant le seuil. Oulana courut vite à un seau placé dans la première pièce, et encore toute rougissante et tremblante, elle lui apporta un gobelet avec de l'eau. Thaddée, tout en buvant, la regardait, mais il buvait lentement et ne la quittait pas des yeux. Oulana se couvrit le visage en se l'essuyant de son tablier. Elle ne savait que faire. Les domestiques l'avaient tellement accoutumée à leur galanterie grossière, tant il lui fallait se défendre à coups de poing comme de l'attaque d'un loup, qu'à la fin, voyant les traits en apparence calmes de Thaddée et son attitude immobile, elle commença à douter de la pensée qui lui était venue d'abord. « Qu'est-ce que vous faites seul ici ? » demanda-t-il après un moment. « Et quoi ? Il y a ordinairement toujours quelque chose à faire au logis. Tout le monde est au champ ? » Cette question effraya de nouveau la femme et elle se tut. Mais en guise de réponse, des voix d'enfants se firent entendre dans la rue. Bon, tu n'es peut-être pas aisé de me voir dans ta chaumière. Bien aise, au contraire, répondit-elle froidement et avec contrainte, en s'essuyant de nouveau la figure avec son tablier. Mais notre chaumière est pauvre. Comment recevrions-nous, monsieur? Mais elle est riche de la somme où tu en es la maîtresse, ma belle Oulana, répondit Thaddée, troublé, sans trop savoir ce qu'il disait. Est-ce là la richesse? Répondit Oulama en soupirant. Mais tout le monde t'aime. Tant pis. Pourquoi? Mais monsieur ne le sait-il pas? Quand le monde vous aime, votre mari ne vous aime pas. Et quand le mari vous aime pas, il n'y a au logis que discorde, larmes et misère, et s'épique la faim. Et ton mari t'aime-t-il beaucoup? Je l'ignore, il doit m'aimer. Est-il vieux ou jeune? Car quelquefois, vous choisissez des maris plus jeunes que vous. Oh non, le mien est vieux. Comment vieux? Et qui t'a forcé de l'épouser? Les choses se passent habituellement ainsi. Moi, j'étais d'une pauvre chaumière, lui, il est riche. Infortuné, dit tout bas Thaddée, et si belle. Mais pour combien de temps? Murmura Oulana avec dédain. Dans toutes ces réponses perçait je ne sais quel chagrin qui se mêlait à l'anxiété que trahissait sa voix et son attitude. Thaddée tenait encore le gobelet à la main comme pour avoir une excuse de sa présence prolongée dans la chaumière. Il n'osait pas sortir. La force du regard de cette femme, de ce regard qui avait quelque chose en soi de si inconcevablement ravissant, de ce regard qui était plus beau qu'elle-même, le tenait cloué au seuil. Et tu ne sais pas même si ton mari t'aime? Répéta Thaddée. La femme jeta les yeux sur lui et se tut. Bon, il doit m'aimer, répondit-elle après un moment, car il est très jaloux. Combien de fois m'a-t-il battue parce que les domestiques du château avaient badiné avec moi? Comment il t'a battue? Reprit Thaddée, stupéfait. Il a osé te frapper? Mais qu'y a-t-il d'étonnant? Ne suis-je pas sa femme? C'est vrai, mais est-ce ta faute si tu es belle et si tous le voient? Ce n'est pas ma faute, mais moi j'en fais pénitence. Oh, combien de fois j'ai prié Dieu et la Sainte Vierge qui me délivrent des poursuites des hommes. Et tu n'aimes pas que quelqu'un tombe amoureux de toi. À quoi cela sert-il? Et de plus, le mari bat. Et même s'il ne battait pas, qu'est-ce que cet amour-là? À cette exclamation, soupirait à voix basse d'un ton singulier. M. Thaddée tressaillit et fixa son regard sur elle. Comment cela? Et quel autre amour connais-tu? Oh, j'en connais un autre, reprit la femme en baissant les yeux. J'en ai entendu jaser au château. J'ai entendu plusieurs fois comment on en parlait. Et j'ai vu comment aimaient les grands seigneurs. Oh, cet amour n'est pas celui des domestiques et de nous autres. L'autre amour, l'amour seigneurial, semble être très beau ou un peu triste, mais quoique triste, bien doux. Mais il ne finit à ce qu'on dit jamais gaiement. Voilà ce que les gens m'ont raconté au château. C'est vrai, c'est vrai, c'est autre chose. Ce ne sont pas vos amours rustiques. Oulana, répondit Thaddée. Chez vous, au village, quand le mari bat, la mère gronde, la femme pleure, et le garçon s'enivre. L'affaire en reste là. Ailleurs, cela ne se termine pas ainsi. À l'amour seigneurial succède l'affliction, et souvent même la mort. La femme ne répondit rien, mais pour cacher un sentiment visible sur son visage, ou peut-être un soupir, elle se détourna vers les poules, et Thaddée dut s'en aller. Une fois dehors, il sentit, avec la lumière du soleil et la fraîcheur de l'air, la honte s'emparer de lui. Il se rappelait comment il était entré dans la chaumière et comment il en était sorti. Et le cœur lui battait, et son visage était brûlant. Tout cela pour une simple femme, pour une villageoise, pour la femme de Honnezard. Et elle, se disait-il, elle sait qu'il existe un autre amour, qu'il y a une félicité plus douce, digne de sacrifice, que dans ce monde du bon Dieu, où ses heures mornes s'écoulent à côté du berceau de son enfant, entre une grange et une étable, il y a une autre vie de sentiments, la vie du cœur, une vie de folie et de bonheur. La pauvre Oulana, mais qu'avait-elle besoin d'aller regarder ce qui se passe au château, d'écouter les fables qui s'y débitent et d'y croire? Les paroles dorées des seigneurs sont un poison. Ne serait-il pas mieux pour elle de rester heureuse, corrompue comme les autres, corrompue comme ses sœurs, plutôt que pauvre et pure, à l'instar de ces quelques martyrs choisis qu'on ne trouve pas parmi ses pareils? Elle se console maintenant aisément avec un des domestiques, ne se souciant guère de son mari, ne sentant pas ce désir de je ne sais quel autre amour. Elle ne s'enduirait pas dans sa chaumière. Mais c'est un enfantillage, des rêveries, de la bizarrerie. C'est une rusée matine et sans doute rien de plus. Elle m'a moi aussi dupé un moment avec son raisonnement sur l'amour qu'elle a dû expérimenter. En se parlant ainsi, M. Daddée s'avançait le long du lac vers la maison, le front baissé. De temps à autre, il jetait un regard sur son château solitaire et silencieux comme son nouveau genre de vie. Puis il le reportait encore sur le village, sur la vieille et noire église, et dans sa tête, penchée et alourdie, erraient les rêveries du soir et les interrogations inquiètes sur l'avenir. Car chaque homme a trois vies en soi, l'une qu'il pleure, la seconde qu'il traîne en gémissant, la troisième qu'il espère. Ces trois existences sont la plénitude de la vie de l'homme. Elles forment à elles trois une guirlande, et si l'une d'elles vient à manquer, de cruelles douleurs la remplacent. Nous avons tous également besoin de pleurer le passé, de nous y reporter tristement, de souffrir du présent et d'attendre un avenir plus serein. C'est la perspective d'un avenir meilleur qui manquait dans ce moment à Thaddée. C'est pourquoi il rêvait si mélancoliquement. Une femme, un regard, un mot avaient suffi pour lui faire prendre en dégoût une vie que peu de jours auparavant il considérait comme des plus heureuses. Une femme, et quelle femme! Et la nuit, silencieuse et paisible, descendait sur la campagne. Le soleil s'empourprait au-delà de la forêt de pins. Le bétail revenait des champs. Et tête basse retournait seule aux étables et aux porcheries. Les chèvres, si nombreuses en Polésie, sautillaient. Les brebis, avec leur laine épaisse et leurs fines jambes, couraient en bêlant vers les chaumières. Les canards sauvages volaient au-dessus du lac, dont le vent soulevait les vagues qui se brisaient contre la rive, près de la route, en éveillant des sons incompréhensibles et irritants, comme tous les bruits de la nature qui nous environne. Dans ce tableau commun et journalier, il y avait je ne sais quoi de charmant et de triste. Il y avait de la vie, mais une vie qui ne suffit pas à un cœur un peu large. Peut-être est-ce trop calme, trop dénué de but. Thaddée regardait. Il voyait la beauté de la scène qui l'entourait, et en même temps il était saisi d'un battement de cœur tel qu'il s'arrêta et s'assit, se sentant pénétré de chagrin et de mélancolie. Tout ce mouvement du soir défilait en face de lui, le long de l'autre rive du lac, et se perdait au-delà de l'auberge du village. Quant à lui, il restait assis, Et involontairement, ses yeux se fixaient sur la cabane d'Oulana, dont la cheminée laissait échapper une fumée noire et résineuse. On entendait dans cette direction, mêlée au beuglement du bétail, la voix de paysans venant des champs, celle d'enfants saluant leur mère et des éclats de rire. Ils sont pourtant heureux de cette vie-là, pensa-t-il. Peut-être plus vite et à moins de frais qu'ailleurs. Pour eux, le pain est tout, et le pain, grâce à Dieu, ne leur manque ni ne leur manquera. Il distingua un léger bruit derrière lui et quelqu'un passa rapidement. C'était comme un fait d'exprès pour le mettre en colère. Il vit Oulana. Il se leva et songea à l'arrêter. Elle courait avec un seau d'eau. Elle le regarda, sourit et s'enfuit. Il ne voulut pas la poursuivre, car on les voyait de la route. Quelqu'un les aurait peut-être aperçus. Et le mari? La chaumière alors aurait été un enfer. Tout honteux et se faisant à lui-même des reproches de plusieurs sortes, Thaddée retourna au château. Personne ne fit attention à lui, personne ne lui adressa la parole. Il alla s'enfermer dans sa chambre.